Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Mordren.
Salut.
D'ATH.
Bonjour.
De Dwayne.
Salut.
Et de Minkerwell.
Salut.
Cette semaine, nous allons aborder le virage à 180 degrés de Microsoft, un virage qui, je pense, vous en conviendrez, mes très chers amis, a été assez brutal, hein, on s'y attendait pas du tout. Enfin,
oui.
Moi, franchement, je pensais pas comme ça qu'ils oseraient, mais ils ont osé. Microsoft a en effet décidé de complètement changer sa politique sur les DRM. Vous n'aurez plus besoin de vous connecter toutes les 24 heures, ça se passera comme aujourd'hui, vous aurez votre galette et vous en faites ce que vous voulez. En revanche, par contre, ce qu'on a appris, et ça c'est beaucoup moins agréable, c'est que Microsoft a décidé de bouder. Vous faites chier, puis voilà, on enlève toutes nos fonctionnalités, hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont enlevé comme fonctionnalité? Tout simplement, la possibilité de partager, de revendre ces jeux en dématérialisé, et aussi la possibilité d'installer les jeux sur disque sur votre console. Et pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, hein, parce qu'il n'y a plus de connexion toutes les 24 heures et qu'on sait tous très bien que ça servait à ça, n'est-ce pas? Donc, je vous propose de commencer ce podcast déjà, peut-être par un petit tour avant ça, de demander vos premières réactions à chaud par rapport à cette décision. Tiens, Mikael, je crois que toi, tu as fait une vidéo dédiée à ça, justement. Est-ce que pour toi, ça change beaucoup de choses? Voilà quoi. Qu'est-ce que ça change, tout ça?
Bah, ça change énormément de choses, parce que ça remet clairement Microsoft dans la course. On l'a vu après la conférence de Sony, tous les joueurs étaient assez catégoriques. C'était, je vais me prendre une PS3, une PS4, dommage, la One avait de bonnes exclus. Vraiment, je pense qu'il y avait un ras-le-bol qui était plus qu'évident chez tous les joueurs. Est-ce que les joueurs auraient retourné leur veste avec le temps? C'est possible. Mais en tout cas, en abandonnant tout ça, Microsoft se remet clairement dans la course et sa console devient à nouveau envisageable. Donc, fallait qu'il fasse. Je pense que c'est la bonne décision.
Donc, en gros, t'as pas finalement été si surpris que ça, quoi. Il devait faire ça pour s'en sortir, quoi.
Ben, je pense... Je me suis toujours dit qu'ils devaient le faire, mais c'est pas pour ça que je me suis dit qu'ils allaient le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois.
Je me suis dit, ils vont droit dans le mur et parti comme c'est parti. Ils peuvent pas revenir en arrière. Ça m'a surpris qu'ils reviennent en arrière parce qu'ils avaient quand même, ils s'étaient quand même engagés à fond là-dessus. Et on l'a vu quand ils sont revenus en arrière. Moi, je suis beaucoup de journalistes de vidéos sur Twitter. C'était un peu what the fuck comme ça du jour au lendemain, abandonner la chose qui faisait finalement le plus parler autour de la Xbox One. C'est vrai que c'est une première pour une firme de genre, pour un produit comme la Xbox One qui est quand même un produit sur lequel il y a beaucoup d'ambition du côté de chez Microsoft. C'est surprenant quand même. Mais franchement, faut pas être un génie pour savoir que cette décision peut leur faire que du bien, quoi, au niveau vente de Xbox One.
Clairement. Dwayne.
Ouais, c'est clair que ça va leur faire du bien, mais c'est vrai que moi, j'ai été vraiment choqué de voir qu'ils ont retourné leur veste, quoi, parce que ils avaient déjà, je veux dire, c'est Microsoft, c'est une stratégie qu'ils ont planifiée depuis un moment, et le fait qu'ils reviennent comme ça, bon. C'est, on va dire, grand seigneur. C'est vrai que revenir comme ça, changer la politique pour faire plaisir aux joueurs et pouvoir vendre plus de Xbox One, c'est sûr que c'est bien. Après, c'est vraiment, je suis vraiment surpris par ça. Et là, c'est bête vraiment à une semaine de l'E3 de voir que, parce que s'ils étaient venus avec la même stratégie à l'E3, je pense qu'ils ne l'auraient pas gagné aussi catégoriquement que Sony, mais je pense que tout le monde aurait dit que Microsoft a gagné l'E3, quoi, s'ils étaient venus avec la stratégie qu'ils ont aujourd'hui. Donc, je trouve ça même un peu triste de voir qu'ils soient revenus si vite sur ça.
Mordren.
Ouais, moi, je m'étais clairement résigné à cette politique de DRM et du coup, à ne pas acheter la Xbox One Et comme tu dis, Mikael, c'est vrai que ça remet vraiment la Xbox One dans la course. C'est vrai qu'on l'a dit pendant le podcast de bilan, la conférence Microsoft était très bonne. C'est juste que après Sony leur a mis juste un point dans le cul, quoi. Et du coup, forcément, c'était un peu compliqué de dire la Xbox One, d'un point de vue conférence est meilleure que la PS4, alors que la PS4 faisait tout ce dont on avait envie, en fait. enfin dans le sens où ça restait exactement pareil que la génération actuelle. Et du coup, moi ça m'a surpris qu'ils reviennent aussi vite, et je trouve ça même stupide en fait d'avoir utilisé l'E3 comme un espèce de baromètre, dans le sens où ils auraient vraiment dû prendre les leçons en fait du 21 mai avec la révélation de la Xbox One, où il y a énormément de monde qui a gueulé et justement voilà, enlever tous ces problèmes là à l'E3 pour avoir un produit qui était attractif. Et du coup, le problème de l'E3, c'est que évidemment il y a énormément de gens du grand public qui regardent, et garder en fait ces choses négatives dans la Xbox One pendant l'E3, tout ça pour l'enlever une semaine après, je trouve que c'est assez problématique d'un point de vue communication. On en reparlera plus tard, mais oui, surpris, agréablement surpris évidemment comme tout le monde. Après, j'attends ce que ça va donner dans les faits.
Mikawel.
Tu disais, au niveau communication, il y a un problème, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment ça qui a choqué tout le monde, parce que... Enfin, on sait pas ce qui s'est passé chez Microsoft, mais en tout cas, quand on annonce ce genre de choses, il n'y a pas besoin d'avoir fait des centaines d'études de marché pour se douter que la réaction allait être virulente. Bien sûr. Pourtant, on a vraiment eu l'impression que Microsoft, c'est genre, oh, attends, on va se faire laminer si on fait ça. Ah, bah, du coup, on change comme ça du jour au lendemain. Enfin, j'ai envie de dire, pourquoi? Ils savaient que ça allait se passer comme ça. Et vraiment, bah, comme tu dis, l'E3, c'est un gros gâchis, parce qu'au final, ils auraient pris leur décision une semaine plus tôt. Bon, on sait pourquoi ils l'ont pas pris une semaine plus tôt, c'est en partie pour la claque de Sony qui a réveillé tout le monde. Mais ils auraient pris leur décision une semaine plus tôt, bah, c'est bon, l'E3, ils entraient en seigneur et ils repartaient en grand gagnant. Alors que là, bah, bon, même si la Xbox One, les gens qui s'y connaissent maintenant le savent, qu'elle est revenue sur certains points... même si elle rentre dans le cœur de certains joueurs, on va dire ça comme ça, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, ils avaient tout pour gagner cette E3, et finalement, ils se sont foirés, lamentablement, tout ça, parce que les stagiaires qui devaient faire la communication de Microsoft ont fait autre chose qu'apporter le café pour une fois. Enfin, bon.
Après, moi, comme je l'écris dans mon papier que j'ai fait le soir même, même si sur le coup, ça m'a surpris, je pense que finalement, ils avaient pas le choix. Enfin, je veux dire, on a vu le bruit que ça fait sur Internet. On a vu que même au niveau d'Amazon, il y a eu des changements de précommande. Et à mon avis, c'est surtout ça qui les a fait bouger, en fait. Et ça, je veux dire, on était arrivé à un point quand même où Sony passait pour un saint, quoi. Je veux dire, alors qu'on sait tous quand même que Sony, voilà, c'est pas des anges, etc. Et ça devenait quand même problématique, quoi. Je veux dire, finalement, on ne parlait de la Xbox One que pour ces DRM, quoi. En tout cas, dans la sphère gamer. Mais le problème, c'est que c'est la sphère gamer qui achète des consoles à 499 €, quoi, le premier jour.
Day One, ouais.
Et si la sphère gamer ne parle que de ça, moi, je pense qu'ils ont quand même fini par se rendre compte, ne serait-ce qu'avec les précommandes, que ça posait un problème. D'autant plus qu'à côté de ça, ça a été très peu mentionné. Mais il y a eu aussi des histoires avec l'armée américaine, parce qu'il faut savoir que les consoles Xbox sont très populaires dans l'armée américaine, et que, en l'occurrence, dans les casernes américaines, t'as pas le droit de te connecter comme ça à l'extérieur. Hein. Donc, la marque Xbox n'aurait plus été présente chez l'armée américaine, ce qui est quand même problématique pour l'image de marque Xbox aux États-Unis, quoi. Ça aussi, à mon avis, ça a joué. ATH.
Le fait qu'ils reviennent sur leur décision, premièrement, déjà, c'est un aveu d'échec. Mais je trouve ça plutôt bien qu'ils reviennent sur leur pas, parce que sinon, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné un Sony peut-être leader sur console, et que la concurrence elle aurait été moindre. Ils auraient pris le monopole, ils auraient imposé leur vision, alors que là, si t'as une marque... qui vient t'affronter en direct, ça va te pousser à faire une bataille des prix, tout ça, surtout que le premier round à l'E3 a été assez virulent à la fin. Après, les seules choses qui vont faire la différence, ça va être les exclus, etc. Mais c'est quasiment presque les mêmes consoles. Tu vois les spécificités, tout ça, c'est quasiment identique. Donc, tant mieux qu'ils ont réussi à faire ça, mais moi, en tout cas, je garderai quand même cette mauvaise image. Et si j'envisagerais de la prendre, ça sera une console en occasion que je prendrai parce que je suis un collectionneur. Comme ça, Microsoft, ils n'auront pas mes sous. Alors que j'ai une PS3 et une Xbox 360, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est, voilà, d'un point de vue gamer, ça sera toujours une mauvaise image pour moi direct.
En gros, bon, on a essayé de te mettre une quenelle et tu vas pas oublier.
Ah, là, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ouais, moi ce que je trouve dommage en fait par rapport à l'E3, c'est que il y a un espèce de buzz tout autour de la PS4, mais le problème c'est que le buzz est venu en fait, c'était un anti-buzz contre Microsoft en fait, dans le sens où j'ai l'impression que la PS4 est vraiment devenue une console par défaut, plus que par coup de cœur. Parce que tout simplement la Xbox One était tellement décevante d'un point de vue communication et d'un point de vue stratégie de DRM de près, on en reparlera, que du coup la PS4, enfin pour les consoleux, c'était devenu une évidence qu'il fallait prendre la PS4, parce que à défaut de pouvoir prendre une Xbox One, t'as plus le choix en fait. Quand t'es consoleux et que tu veux rester consoleux, la seule option qui te reste, c'est soit la Wii U, mais bon, la Wii U c'est un autre problème, soit la PS4. Donc forcément, donc ça peut potentiellement avoir des répercussions sur Sony et la PS4, parce que voilà, là pour le coup...
De toute façon, on l'a déjà vu au niveau les commandes sur Amazon, apparemment ça re-switchait derrière.
Donc là pour le coup, la course reprend, enfin la course commence, j'ai l'impression. Mm. Parce qu'avant elle avait pas vraiment commencé parce que Xbox One était juste resté derrière. Là, ils sont vraiment voilà sur le top départ et on peut commencer.
Ok. Donc... il y a eu des réactions par rapport à cette annonce, vous l'imaginez bien. Et nous allons prendre tout particulièrement deux réactions. La première, c'est la réaction d'un journaliste de Gizmodo. Et la seconde, c'est un long papier de Cliff Bleszinski, hein, le papa de Gears of War. Pour refaire le résumé de tout ça, en gros, le papier de Gizmodo nous explique que finalement, on a peut-être l'impression d'avoir gagné quelque chose là, mais en fait, on est perdant. Et pourquoi on serait perdant ? Parce que la Xbox One nous promettait de pouvoir partager et de revendre ses jeux en démat, ce qui est une fonctionnalité, il est vrai, intéressante. Et en second lieu, parce que il y avait la possibilité d'installer ces jeux sur notre disque dur quand on achetait un CD, et que là, ça sera plus possible, parce que vous vous imaginez bien que si il y a plus de DRM toutes les 24 heures pour checker que vous n'avez pas prêté le jeu à votre pote en démat et que vous avez gardé le CD chez vous, ça va pas être possible. Donc voilà, il y a ça, plus le fait que Gizmodo soutient une thèse qui voudrait, grosso modo, que toute cette politique de Microsoft avait pour but de mettre en place un écosystème qui aurait permis mécaniquement une baisse des prix. Parce que, tout simplement, si les revendeurs sont exclus de la boucle, quand les éditeurs vont toucher de l'argent des jeux que vous allez revendre sur un démat, bah voilà, ça fait de l'argent qui rentre dans leur caisse. Donc, forcément, si les éditeurs gagnent de l'argent, bah voilà, ça crée un cercle vertueux, et du coup, ils peuvent commencer à faire des soldes à la Steam, etc. Alors, messieurs, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de cette théorie, sachant que moi j'ai une idée bien établie sur le sujet, mais bon, j'attends d'avoir vos réactions avant de sortir le fusil à pompe, parce que là, moi, je pense que ça va être assez violent. Hein. Donc, tiens, Morren, qu'en penses-tu ?
Ouais. J'y crois pas une seule seconde, en fait. Parce que bon, moi je me rappelle sur la génération de consoles précédente, enfin la génération actuelle encore, où on nous disait oui, vous allez voir, on va faire plein de jeux dématérialisés, ils sortiront en même temps, la PS Vita par exemple. Finalement, les jeux sortent exactement au même prix, donc il n'y a aucun avantage à prendre les jeux en dématérialisé. Et en plus de ça, les jeux en boîte, voilà, sont toujours aussi chers. Mais en plus de ça, on leur ajoute des DLC, on leur ajoute des season pass, on leur ajoute toutes sortes de trucs cosmétiques pour tirer encore un petit peu plus sur la vache à lait. Et donc, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans une atmosphère de baisse de prix générale. Enfin, bon, c'est peut-être qu'un point de vue, hein, mais je pense pas forcément qu'on aille vraiment sur un truc qui baisse les prix, surtout qu'on nous rabat les oreilles tout le temps sur le fait que oui, les triple A ça coûte cher. Alors oui, ça coûte cher, c'est sûr, et que du coup on peut pas baisser les prix, voire même qu'on devrait les augmenter. Donc je suis pas certain qu'on aille vraiment là-dessus, et je pense que quiconque s'attend à des baisses de prix à la Steam sur Xbox One et sur PS4 confondu, va va être déçu. Parce que bon, traditionnellement, les soldes Steam sont juste imbattables. Même sur le dématérialisé, quand on compare les soldes XBLA aux soldes Steam, voilà, c'est, y a juste pas photo. Donc bon, je, personnellement, je trouve que c'est pure supputation de la part de ce rédacteur de Gizmodo. Après, bon, on verra, hein, mais moi, j'ai de gros doutes.
Sachant qu'en plus, à côté de ça, le rédacteur de Gizmodo nous explique grosso modo que les joueurs sur console sont des gros rétrogrades, qu'ils n'acceptent aucune évolution, et que les DRM, en tout cas celui que proposait la Xbox One, n'était pas contraignant.
Ah.
Alors, moi je sais pas, est-ce que vous avez l'impression, tiens Mikael, que les DRM tels qu'ils étaient présentés là étaient acceptables, que voilà, c'était pas très contraignant et que finalement pour le bien de tous, il fallait accepter qu'on se connecte toutes les 24 heures pour avoir des jeux moins chers.
Non, mais là c'est clair et net que c'est vraiment du bullshit, enfin faut pas chercher, on le sait, les DRM ça a genre rarement apporté quelque chose de bon, pour pas dire jamais. Le DRM de la Xbox One, bah, c'était du truc bête et méchant, il y a pas à dire, hein. Si t'avais pas le net, t'étais baisé, c'était aussi simple que ça. On avait beau nous dire que ça apporterait des fonctionnalités géniales avec une partie des calculs qui serait gérée en cloud vu que ta console serait connectée, etc. Bon, ce genre de promesses, on en a déjà fait des milliers. Je crois que la dernière fois, c'était pour SimCity. On a bien vu ce qu'a donné le DRM sur SimCity. C'est le PC, c'est différent, mais justement, est-ce qu'on veut avoir ça sur console? Non. Les DRM, c'est juste un moyen qui est utilisé pour limiter tantôt le piratage, tantôt l'occasion, et faut pas essayer de faire passer ça pour autre chose. Au bout d'un moment, je crois que les gens sont pas cons, quoi.
ATH.
Maintenant, le jeu vidéo, tu vois, on est entré dans un truc de produit de consommation. S'ils essaient de récupérer des sous sur la moindre transaction, de grappiller le moindre centime, ils vont te mettre des DLC, des season pass, en veux-tu, en voilà. Je suis d'accord avec vous que les jeux, ça coûte très cher, que l'occasion, ils gagnent pas d'argent dessus, mais bon, en même temps, vu le peu d'argent que gagnent les boutiques sur les jeux vidéo, il faut bien qu'ils se fassent leur beurre quelque part. Tu peux pas avoir un écosystème qui fonctionne correctement si les deux parties sont pas gagnantes. Quand tu vois que, par exemple, je sais pas, moi, Micromania gagne 5€, maximum 10€ sur un jeu neuf, je comprends que Micromania essaie d'entuber les éditeurs développeurs en vendant leurs jeux à fort prix, tu vois, ils vont vendre un Dishonored à 50€ et qu'ils vont empocher les 50€ pour leur gueule parce que la première fois, c'est eux qui se sont fait baiser sur la transaction. En tout cas, ce que dit Gizmodo, c'est qu'ils nous promettaient qu'ils allaient baisser les prix, tout ça. En gros, ils nous promettaient une concurrence un peu à la Steam, etc. Mais pour l'instant, je pense pas que ça aurait été le cas. Je pense qu'ils auraient mis leur jeu encore en dématérialisé à 70€.
Même prix qu'actuellement, voilà. Quoi. Voilà.
Ils sont sympas, quand même. Ils sont pas cons. On est gentils, on vous baisse le jeu de 5€. C'est ce que j'ai vu sur le PSN et sur le Xbox Live. Ils t'enlèvent 5€ de remise. Mais bon, à ce prix-là, je préfère aller faire quelques kilomètres et m'acheter mon jeu en boîte ou le commander sur Internet sur un site comme vous connaissez tous, hein. Je vais pas faire de pub.
Ça commence par A.
Ça termine par Amazon, je crois.
Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un problème d'éthique qu'il y a eu en ce moment et que ce qu'il promettait, c'était pas vraiment la vision du futur de Microsoft.
Dwayne.
Ouais, c'est sûr que c'était pas du tout la vision qu'ils auraient eu, vu que s'ils ont changé leur politique à ce moment-là, c'est que de toute façon, ils ne seraient pas revenus sur les prix ou autre, vu que sinon ils nous l'auraient annoncé dès l'E3, c'est-à-dire une baisse de prix sur les jeux, ce sera moins cher et vous pourrez faire vos transactions, etc., et les expliquer. Donc à ce niveau-là, c'est clair que Microsoft a fait un très mauvais move.
Morgan.
Moi, honnêtement, sur les jeux des matchs, je m'attends pas vraiment à ce que ça soit moins cher. Je m'attends juste que ça soit quasiment au même prix, mais avec plus dedans, en fait. Dans le sens où tu vas acheter un truc en des matchs, tu vas avoir, je sais pas quoi, des chapeaux genre Team Fortress 2, tu pourrais avoir, je sais pas, le premier DLC gratuit inclus dedans. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour que les prix ne bougent pas, en fait. Quitte à donner des trucs en démat en plus, mais je pense que grosso modo les prix vont, enfin il y aura deux, à mon avis il y aura deux vitesses sur les prix. Il y aura les jeux, les gros jeux qui vont être quasiment au même prix et les plus petits jeux, donc moins chers, donc en dessous de 15 €, donc que ce soit les jeux indés s'il y en a sur Xbox One, et les jeux XBLA. Je pense qu'il y aura juste, voilà, il y aura ces deux gammes de prix, mais je suis pas sûr qu'on arrive vraiment à faire baisser les prix des triple A, parce qu'on sait que voilà, c'est ils ont vraiment besoin de rentabiliser leur jeu, et vu voilà le nombre de fois où ils se plaignent de pas rentabiliser leur jeu triple A, je doute que le dématérialisé soit vu d'un très bon œil s'il est vendu à 30 €.
Alors moi maintenant je vais donner mon sentiment sur cet article. C'est un torchon. C'est honteux d'écrire des papiers comme ça, d'écrire que les DRM imposés par Microsoft ne sont pas contraignants. Alors, attendez là, une seconde. Le DRM de Microsoft, je rappelle quand même, c'est se connecter toutes les 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Parce que moi, fondamentalement, ce qui me pose le plus problème là-dedans, c'est pas tellement qu'il faille avoir une connexion Internet. Même si, encore une fois, je pense que ça pose problème pour un certain nombre de personnes, oui. Mais admettons. Ce qui pose problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des serveurs en face. Il faut aller sur les serveurs de Microsoft. Ce que ça implique donc, ça veut dire que le jour où il y a des problèmes avec les serveurs de Microsoft, et Dieu sait qu'on en a eu sur les serveurs de Diablo 3 et de SimCity, pour ne citer que, et Dieu sait que c'est pas des petits studios qui sont derrière, quoi. Le jour où il y a des problèmes, tu peux plus jouer. Premier point. Et second point. Il se passe quoi en fin de la vie de la Xbox One? Ils vont maintenir les serveurs ad vitam aeternam comme ça? Non mais s'il vous plaît là, stop. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Jamais Microsoft ne maintiendra des serveurs ad vitam aeternam. Alors après, on pourra me rétorquer qu'ils pourraient effectivement mettre en place le système et dire bon, c'est la fin de vie de la Xbox One et donc à ce moment-là, plus besoin de connexion toutes les 24 heures au serveur. Très bien, ils avaient qu'à l'annoncer. Moi je suis désolé, là ils ont maintenu un flou volontairement et même s'ils avaient annoncé, tu vois... Quand je vois ce qu'ils ont fait avec le Xbox Live Arcade, où finalement il a fallu que les gens gueulent pour qu'ils envisagent de chercher une solution pour peut-être insérer les jeux sur Xbox One, comment tu veux faire confiance à une boîte comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ensuite, second point. Là, on est en train d'essayer de nous la faire à l'envers. On est en train de nous dire, alors, vous avez rien compris, il fallait accepter de se taper des DRM pour avoir des jeux moins chers. Attends, Coco, je t'explique une minute là. Parce que dans son article, le rédacteur de Gizmodo cite souvent Steam. Il répète à qui veut bien l'entendre que Steam, au départ, oui, c'était pas forcément apprécié, ce qui était vrai. Je me rappelle notamment à la sortie de Half-Life 2, ça gueulait pas mal sur Steam. C'était de la merde, fallait se dire ce que c'était. C'était mal branlé. Mais pourquoi les gens sont venus à Steam petit à petit? C'est pas parce que d'abord on a mis des DRM et qu'ensuite les jeux sont devenus moins chers. Non. Ça a pas marché comme ça. C'est parce que Valve a rendu son système attractif que même des mecs comme moi, qui à la base étaient des consoleux, parce que moi je suis un consoleux, à la base je suis pas du tout PCiste. Hein. Le PC, je m'y suis mis en 1996, les consoles, j'y joue depuis 1989. Hein. Donc voilà. Et le PC, pour moi, c'était une machine à point. Et pourquoi c'est devenu la machine principale? Parce que Valve et Steam proposent un service qui est nickel, qui marche très bien, et qui, en plus, proposait des prix pas chers pendant les soldes, je précise. Parce que Steam, en temps normal, c'est de l'arnaque. Hein. Je suis désolé, ça, les prix des jeux neufs sur Steam, ils ont pas baissé. Hein.
Non.
Alors certes, d'une manière générale, les jeux PC ont toujours été moins chers que les jeux consoles. Ils ont toujours été aux alentours de 50 €. Mais ça a toujours été ce prix-là en matériel. Hein. Je veux dire, c'est plus rentable d'acheter un jeu neuf sur Amazon que de l'acheter sur Steam en neuf. Déjà, il y a ça. Donc, on est en train de nous prendre pour des imbéciles en nous faisant passer cette solution-là pour une solution qui permettrait de baisser les prix sur le long terme. Et je suis désolé, si Microsoft avait vraiment l'intention de baisser ses prix, à ce moment-là, eh bien, ils ont un magasin dématérialisé qui existe, hein, ça s'appelle le Xbox Live, qui fasse des promos sur leurs jeux, sur le Xbox Live, et voilà. Et enfin, pour terminer sur les fonctionnalités qui ont été retirées, une seconde là. Qu'on dise que on retire ces fonctionnalités pour les jeux sur CD. Ça, je trouve ça tout à fait normal, parce que justement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a tout à fait possibilité pour les gens d'arnaquer entre guillemets Microsoft et de garder le DVD, de partir hors ligne pendant que leurs potes jouent au jeu chez eux, quoi. Donc ça, je comprends. Sauf que, personne ne leur a dit d'enlever ces fonctionnalités pour les jeux qui sont disponibles en dématérialisé. Ah, attendez, là, je suis désolé. Qu'est-ce qui empêche Microsoft de mettre en place ces fonctionnalités pour les jeux démat? Rien. Absolument rien. Si t'as un jeu démat chez toi, t'es obligé de te connecter un moment ou un autre pour dire à Microsoft, ce jeu démat, je le prête à mon pote. Microsoft dit, ok, on désactive le jeu chez toi, ton pote peut y jouer. C'est bon. Voilà. Donc, pour les jeux démat, ils peuvent très bien le faire, et j'ai même envie de dire, pour toutes les fonctionnalités qu'ils ont annoncées, ça marche très bien pour les jeux dématérialisés. Et j'aurais même envie d'ajouter que ils auraient intérêt à faire ça. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous imaginez un peu Microsoft pendant l'E3 arriver dire, alors si vous achetez des jeux en dématérialisé, vous aurez ça. Voilà. Vous avez toutes ces fonctionnalités-là qui marchent. Si vous avez acheté les jeux en DVD, ça marche comme maintenant, sauf que vous n'aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités qu'on vient de citer. Mais, attends, mais c'est vachement vendeur pour le machin, quoi. Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Je ne comprends pas. En fait, j'ai l'impression que là, t'as Microsoft qui a fait, si vous n'êtes pas content, ça y est, je boude, hein. Voilà. Hein, je retire toutes les fonctionnalités, puis voilà. Voilà. Allez, j'ai un peu trop parlé, je vais passer maintenant la parole à Mikael.
Surtout que c'est qu'au niveau baisse de prix, ça semblait pas se profiler, parce que déjà, une chose est sûre, Microsoft et Sony vont être alignés au niveau des prix. Ou alors, si les prix sont à 80€ sur PS4 et 70€ sur Xbox One, je rigole fort, mais on le sait, les prix seront alignés. Sony a annoncé il y a quelque temps qu'ils vont pas changer leur prix de jeu concernant leurs jeux qui sont développés dans leur studio. Alors, j'ai plus le
nom. Non, justement, ça a changé, parce que ils sont à 60€ comme les jeux first party de Microsoft maintenant, en fait. Alors que...
Mais ils étaient à 60€ avant aussi, les jeux first party et Sony.
Non, pas du tout.
Tu es sûr? Bah d'accord, bah j'ai dit des conneries alors. Non, mais autant pour moi.
Bon, j'étais
persuadé
voilà.
Qu'ils étaient à 60 avant.
Faut juste se rappeler que c'est 60 partout maintenant.
Voilà, enfin pour les first party, parce que les éditeurs tiers, ils pourront encore les refourguer à 70 oui. En grande surface et dans les crèmeries que vous connaissez. Moi, c'était juste pour répondre sur ce que tu disais sur les DRM. Et le jour où Microsoft ferme leur serveur, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Parce que pour moi qui possède pas mal de consoles, des fois je me fais des petites sessions rétro gaming, et pour moi la Xbox One telle qu'elle était annoncée, c'était la première console non compatible, non rétro gaming, que tu pourrais pas jouer une fois que la machine aurait disparu. C'est-à-dire que c'était la console, tu l'as, une fois qu'elle est en fin de vie, qu'est-ce que t'en fais? Tu la jettes, en fait, c'est ça. Même, tu vois, c'est...
J'aime bien dire ça, c'est l'expression ultime de l'obsolescence programmée. c'est exactement ça.
Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire... pour les collectionneurs, c'est un peu con. Et même, le jour où la console a disparu, c'est que tu pourras plus jouer. C'est-à-dire, si tu voudras faire découvrir telle ou telle chose à un ami, à tes gosses, ou je sais pas, moi, quelqu'un de ta famille, ça sera pas possible. Tu dis, oui, à cette époque-là, on a eu ce jeu-là. Regarde, je te fais jouer vite fait.
ATH, tu pourras, en achetant la réédition digitale sur Xbox.
Non, je suis pas d'accord, parce que, je suis pas d'accord avec ça, parce que, moi, en tant que acheteur, j'ai acheté un produit, j'ai envie de pouvoir l'utiliser n'importe quel moment. Si j'ai envie d'utiliser dans 5 ans, 10 ans, à moins de le casser ou tout ça, j'ai le droit de l'utiliser dans ce moment-là. C'est-à-dire que mon produit, je l'ai acheté, j'en fais ce que j'en ai envie, j'en ai l'usufruit. Alors que là, ce qu'il me dit, c'est que non, en fait, ton jeu, il aura une période de validité. C'est-à-dire il a un DLC, mais pas un DLC qui t'ajoute du contenu en plus, c'est une date limite de consommation. Après, c'est fini. Ton jeu, c'est du yaourt, mon gars. Voilà, c'est fini. Et sinon, pour...
Ça peut être assimilé à du prêt à long terme aussi, en fait. Hein. Vu comme ça, en fait. C'est que ton jeu, tu l'as, mais...
Ouais, mais bon, tu l'as payé quand même.
Mais c'est exactement ce que pensent les éditeurs des jeux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos jeux, les mecs. Hein. Je vous l'informe tout de suite. Vous êtes propriétaire d'une licence. Et la licence, c'est une expiration. C'est ça, c'est ouais, comme bon, ça qu'on conçoit les éditeurs. Parce que depuis des années, vous êtes là, vous croyez que vous possédez vos jeux et tout, mais pour les éditeurs, c'est pas le cas, vous êtes propriétaire d'une licence, point.
Tyran qui se joue un peu Matrix, c'est pilule bleue ou pilule rouge. La vérité, tu ne possèdes pas tes jeux. Non, mais pour revenir plus sérieusement aux questions DRM, prêt, tout ça, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je vois en fait les consoles, on va dire une console pour moi, c'est vraiment de la consommation de jeux vidéo, comme un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD, c'est de la consommation de cinéma. Et imaginez un peu le parallèle si on nous faisait ça avec nos films, si on pouvait pas prêter un film, si on pouvait pas être connecté. Alors oui, c'est deux mondes différents, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de différence qui justifie qu'il y en ait un qui soit fliqué par DRM et l'autre non. C'est assez hallucinant de se dire qu'on nous impose ça et que... Enfin, heureusement qu'ils sont revenus en arrière, parce que quand même, enfin, j'ai envie de dire, c'est un produit de consommation, tout ce qu'il y a de plus classique maintenant, le jeu vidéo, au même titre qu'un DVD ou autre. Et imaginez le scandale qu'on pourrait avoir si on pouvait même pas prêter un DVD. Et là où ils sont cons, en fait, Microsoft, j'y arrive un tout petit peu au niveau de la communication, mais c'est que les boutiques de jeux vidéo, c'est à cause d'elles qu'il y a du prêt. Mais globalement, il suffit juste de forcer un peu le trait sur la dématérialisation, comme peut le faire Steam. Et la dématérialisation, on le sait, elle va s'imposer. Ça, c'est quelque chose... Bon, on peut toujours imaginer qu'il y aura des collecteurs, mais ce sera quelque chose de marginal. Le gros de la consommation, dans l'avenir, ça sera via de la dématérialisation. Donc l'occasion est amenée à crever naturellement, de toute façon. Donc là, ils se sont mouillés un petit peu à faire n'importe quoi. Après, ce qui était aussi intéressant, qu'on n'a pas souligné... C'était l'idée qu'avait Microsoft du prêt des jeux via la licence, etc. Bon, au final, c'était assez foireux. Je sais pas si vous connaissez les détails où on pouvait rentrer
c'était,
des amis,
10 personnes, mais on connaissait pas les détails, justement.
En fait,
voilà. Mais ça,
amis,
c'était assez intéressant.
C'était 10 amis que tu avais dans tes contacts de plus d'un mois que tu pouvais leur prêter un jeu. Et tu pouvais leur prêter un jeu, mais toi, tu pouvais plus jouer à ce moment-là, effectivement.
Ouais, c'était normal.
Et... On s'en vit de la limitation.
Voilà.
Mais là où c'était assez intéressant, c'est que c'était, mine de rien, un premier pas vers le prêt du jeu dématérialisé, ce qui est pas totalement, enfin, ce qui est même inexistant, on peut le dire, jusqu'à présent. Et c'était un premier pas qui était fait dans ce sens, et qui, c'était une petite lueur d'espoir dans toute la merde qu'il y avait jusqu'à présent, merde qui n'est plus présente, hein, comme on l'a dit. Mais ce point, faut quand même pas le négliger, surtout que c'est des pistes qui vont être utilisées apparemment chez d'autres personnes. Tyran, est-ce que c'est le moment de parler de Steam ou pas?
Bah, tu peux l'évoquer si tu veux, oui.
Je l'évoque rapidement, mais il y a eu des rumeurs comme quoi Steam pourrait peut-être se mettre auprès de jeux, parce qu'il y a des gens qui ont bidouillé des versions bêta de Steam et qui se sont rendu compte qu'il, dans les lignes de code, qu'il y avait clairement des mentions à du prêt de jeu. Et imaginons que Steam... Imaginons, Microsoft ne revient pas sur sa décision, toujours du DRM, toujours plus ou moins pas de prêt. Et imaginons que dans le même temps, Steam se met auprès des jeux, et c'est là qu'on se rend compte que c'est assez fou, quoi. Pouvoir prêter des jeux sur Steam et que ce soit un bordel aussi grand sur une console. Pff,
surtout wow. Qu'encore une fois, je me répète, mais rien ne les empêche de mettre en place cette politique-là pour les jeux achetés en dématérialisé. Je veux dire, ils ont même tout intérêt à la mettre en place parce que Steam, je veux dire, ça s'est pas construit du jour au lendemain comme ça, quoi. Les gens, ils sont venus progressivement. Et moi, j'ai eu l'impression, là, en voyant ce qu'a fait Microsoft, ils ont essayé d'imposer brutalement leur DRM, de dire, maintenant, ça sera comme ça, et puis merde. Au lieu, tu vois, de mettre la carotte, tu vois. On a mis le bâton d'abord, tu vois, et la carotte, peut-être que ça sera plus tard. Non, je suis désolé, les mecs, ça marche pas comme ça. Bon, tu mets la carotte avant, et voilà, tu mets la carotte, et les gens, ils y viennent. Les gens sont venus à Steam parce qu'ils payaient les jeux moins chers, parce que le service était top, c'est tout. Mordren.
Belle image.
Oui, j'ai l'impression que l'objectif c'est quand même de d'abolir l'intermédiaire qui est le revendeur en fait. Et en fait j'ai l'impression que Microsoft voulait vraiment pousser le dématérialisé. Le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que, enfin, ils ont eu l'impression certainement à tort que les gens avaient peur d'Internet. Ce qui est faux, les gens ont pas peur d'Internet. Ils ont peur de leur DRM. Ils ont pas peur d'acheter en dématérialisé. Et du coup, ils se sont dit, ah, les gens ont peur d'Internet, ok, on enlève tout l'Internet dans Xbox One, les gens pourront se mettre sur Internet s'ils veulent, ils pourront acheter des trucs s'ils veulent, mais par contre, voilà, tout ce qu'on avait prévu avant, bah, laisse tomber, on arrête. C'est con, parce qu'ils avaient des trucs, voilà, qu'on vient d'en parler, le prêt de jeu à 10 personnes, ça pouvait vraiment être une révolution. Michael vient juste d'en parler, si Steam le fait avant, ben voilà, la révolution, c'est Steam qui l'a inventé.
Ça avait été exclusif, en plus. Au jeu dématérialisé, oui. Mais raison plus pour se mettre à acheter des jeux en démat, quoi. Plus tu mets de service, plus les gens vont adhérer au service, quoi. Enfin...
C'est évident. Et du coup, c'est vraiment dommage, parce que bon, finalement, le seul truc qui gênait vraiment avec l'Xbox One, c'est le DRM. Et du coup, ils ont mal compris, en fait, la grogne des gens. La grogne des gens, c'était juste par rapport au DRM, c'était pas par rapport à la politique de dématérialiser autour. À mon sens. Et donc du coup, je trouve que c'est dommage. Enfin, ils ont pris une décision hâtive, à mon sens, de parce que bon, voilà, faire un communiqué directement sur le site xbox.com, pardon Matrix, et dire on enlève tout ce qu'on a dit une semaine après l'E3, je trouve quand même que c'est une décision très très hâtive, et du coup, ils ont pas assez réfléchi à ce qu'ils devaient garder. Et finalement, ils gardent plus rien.
C'est le sentiment général qu'on retire de ça, c'est que t'as l'impression que les mecs, ils y sont allés au doigt mouillé et qu'ils se sont rendus compte que ah bah bon, ça marche pas, le vent a tourné, donc voilà. Mikael, et après je redonnerai la parole à Mordrain pour qu'on passe à Cliff Bleszinski.
Alors là, je fais juste un tout petit hors-sujet, mais je crois que c'est quand même bon de le mettre sur la table, notamment parce que j'ai écrit un excellent dossier là-dessus. Mais on dit que Microsoft revient dans la course, a abandonné toutes ses arnaques. Petite parenthèse, petit hors-sujet, Microsoft n'a quand même pas tout abandonné, et il y a toujours le Kinect qui est très limite au niveau vie privée, etc.
Mais on y reviendra, ça justement.
On y reviendra, mais faut le garder en tête. Voilà.
Morvan, maintenant, Cliff Bleszinski. Alors, qu'est-ce qu'il raconte?
Cliff B.
Alors qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une autre des grosses réactions en fait par rapport au ce qu'ils appellent maintenant le U-turn de la Xbox One. Parfois on l'appelle même la Xbox Turn, ce qui est assez marrant. la Xbox 180 parce qu'elle a fait un demi-tour. Enfin bref, Cliff Bleszinski qui réagit voilà par rapport à ce virage et qui lui parle très clairement de l'ennemi numéro un qui est en fait les revendeurs et l'occasion parce que pour lui c'est vraiment quelque chose enfin qui est c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il dit en fait je suis prêt à parier qu'il y a un ordre de la direction qui est venu pour demander à tous les managers de pousser l'occasion dès que possible. Et en gros en fait si vous voulez lui ce qui le gêne c'est que certes ils prennent tout l'argent sur les jeux qui sont vendus neufs. Par contre, les revendeurs prennent tout l'argent sur les jeux qui sont vendus d'occasion. Et du coup, il y a un espèce d'effet pervers en fait dans la revente selon lui, qui est que du coup, les revendeurs poussent évidemment l'occasion parce que bon, voilà, faut bien survivre et faire son beurre. Et lui, en fait, ce qu'il reproche à ça et ce qu'il aimait bien avec la Xbox One, c'est que pour une fois, le marché de l'occasion serait contrôlé et il y aurait de l'argent qui reviendrait aux développeurs et à l'éditeur sur la revente de jeux d'occasion, ce qui n'est pas le cas du tout maintenant. Donc lui, il était, vous l'imaginez bien, favorable à cette idée de marché de l'occasion contrôlé pour, en gros, que les revendeurs arrêtent de se foutre de la gueule des éditeurs développeurs.
Bon. Tout en après, reconnaissant c'est... quand même que une collection toutes les 24 heures, c'était pas très intelligent.
Oui, après il admet complètement que voilà la connexion toutes les 24 heures c'était sacrément stupide parce que bon en fait si vous voulez lui il comprend tout à fait que les consommateurs aient été choqués voire très mécontents de ce qui a été dit par Microsoft. Il le dit d'ailleurs et il trouve que la Xbox One s'est montrée un petit peu paternaliste en fonction des par rapport aux utilisateurs, dans le sens où voilà avoir une Xbox qui tous les jours vient regarder un peu comme un parent ce qui se passe un peu dans ta chambre, c'est pas forcément vécu de très belle manière par les gens. Et il parle aussi de Steam. Et il dit que la vraie différence en fait entre Steam et la Xbox One, parce que bon finalement les deux peuvent être assimilés à des DRM, la vraie différence avec Steam, c'est que Steam ne vous force pas à être en ligne. Le seul truc, c'est que l'écosystème de Steam est, selon lui, tellement brillant, en passant de la communauté au solde d'été, en passant par les jeux indés, que vous voulez être en ligne en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Tyran, c'est que voilà, il n'y a pas de carotte pour le moment pour aller sur Xbox One avec DRM. Du coup, ça pose problème, selon lui.
Alors, moi, fondamentalement, tout ce que raconte Cliff Bleszinski, je suis à peu près d'accord. Moi, je veux dire, je ne fais absolument pas partie de ceux qui se soucient du sort des boutiques. Hein. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet. Pour moi, si les boutiques ne peuvent survivre que par le fait de l'occasion, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et de toute façon, moi, je fais partie de ces gens qui ne vont absolument plus en boutique parce qu'ils n'y trouvent aucun intérêt. C'est cher, déjà, premier point. Les conseils des vendeurs, j'en ai rien à secouer. Hein, je veux dire, j'ai des centaines d'avis sur Internet qui m'intéressent bien plus que celui du vendeur. Et de toute façon, je veux dire, le vendeur, il ne connaît pas, il sait pas ce que j'aime, etc. Je préfère me renseigner auprès de gens que je connais. Voilà. Et enfin, dernier point, parce que c'est souvent le point qui est cité, Les boutiques, pour moi, ce n'est pas un lieu de communication où tu tapes la discute avec les vendeurs. Et d'ailleurs, les vendeurs sont les premiers à le reconnaître quand tu discutes un peu avec eux. Parce que ils sont les premiers, je veux dire, à dire que les mecs qui sont là, qui viennent taper la discute et qui achètent jamais rien, c'est bien gentil, mais c'est un lieu de négoce ici, quoi, si tu veux. Donc, on est là pour vendre des boîtes, on n'est pas là pour faire plaisir. Et si tu veux discuter, va au troquet, quoi. Et ils ont tout à fait raison à ce niveau-là. Le truc, c'est que, voilà, pour moi, les boutiques, elles peuvent crever demain, je m'en fous, je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y ait une branche de métier qui devienne totalement obsolète à cause de l'évolution technique, parce qu'il y a les sites internet, etc., voilà. Pour moi, ça, aucun souci. Le truc, c'est que, encore une fois, ce qui m'a posé problème dans l'intervention de Blazinski, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il minimise pas mal, quoi. Alors certes, il reconnaît que c'est con, etc., mais c'est pas juste, encore une fois, une erreur de communication. Et c'est ça qui m'agace. Dans l'ambiance générale, j'ai envie de dire, c'est que plein de fois, il a été sous-entendu qu'en fait, ouais, non, mais si c'était pas passé, c'est parce que Microsoft, ils avaient mal communiqué leur truc, tu vois. S'ils avaient bien vendu leur truc en disant que, oui, tu aurais pu racheter, on aurait pu racheter tes jeux plus chers chez Microsoft, que machin, que truc, les DRM, ce serait passé. Mais non, ça serait pas passé, parce que le DRM tel qu'il est présenté là, il n'est pas acceptable, tout simplement. ATH.
Notre ami Cliffy B a eu la bonne idée au moins de reconnaître que une connexion toutes les 24 heures c'était une mauvaise chose, donc c'est un point qu'on peut lui accorder. Je suis d'accord aussi avec lui sur le fait que tu vois les revendeurs se gavent aussi pas mal. Et les revendeurs, tu vois, comme je vous parlais tout à l'heure en off, c'était le fait que GameSpot aux États-Unis a eu la bonne idée en fait de commander un certain nombre d'exemplaires d'un certain type de jeu. On va prendre par exemple le cas un cas d'enfant d'année d'un Call of Duty Ghost qui va sortir. Ils vont dire qu'ils vont prendre 100 000 exemplaires pour tout le territoire américain. Les 100 000 exemplaires, c'est rien pour un marché aussi grand que les États-Unis. Mmh. Surtout pour un gros blockbuster comme celui-là que tu sais qui va se vendre. Ils vont en prendre qu'une certaine nombre de copies, ce qui va amener une pénurie des jeux neufs.
Ouais, donc c'est en gros une pénurie organisée des jeux neufs pour mieux revendre l'occasion.
Voilà. Là, je parle vraiment de GameStop. Mmh. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains vont pas aimer le jeu ou bien vont torcher le jeu. Ils vont le revendre au bout de 3-4 jours parce qu'ils l'ont terminé. Mmh. GameStop va remettre les jeux en rayon au prix de l'occasion, mais le jeu il est à 70€, il va passer à 60€. Ce qui fait que voilà, pour un jeu en occasion à 60€, tu te fous un petit peu de ma gueule quand même. Ça fait un petit peu cher les jeux d'occasion. Les personnes qui vont venir vont dire bonjour, je voudrais tel jeu en neuf. Ils vont dire écoutez, on n'a plus ce jeu là en neuf, mais je vous propose le même, mais à 60€, sauf que c'est un jeu d'occasion. Et là donc GameStop va se goinfrer comme un porc. Et donc là, c'est vraiment une politique déloyale de leur part. C'est ce genre de parasites-là qui plombent l'industrie du jeu vidéo. Et pour conclure, je voudrais dire aussi qu'il y a eu une chaîne de jeux vidéo aux États-Unis qui a été créée l'année dernière, qui proposait 10% sur les jeux d'occasion aux éditeurs développeurs, pour montrer patte blanche et dire que on pouvait trouver un moyen de s'entendre.
Donc, on est d'accord que, encore une fois, fondamentalement que les revendeurs soient pénalisés dans l'histoire, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est pas notre affaire, ça c'est l'affaire des revendeurs. Mais voilà, ça ne justifie pas, encore une fois, de mettre un putain de DRM énorme derrière. Et justement, si Microsoft était parti en disant « Bah écoutez, nous on prend en charge l'occasion et on rémunérera mieux que GameStop », bah tout le monde « Ok Microsoft, tiens, j'arrive, rien à foutre de GameStop, c'est cool ». Voilà, Dwayne.
Oui, c'est sûr que c'est Cliffy B a raison à ce niveau-là, que au niveau des boutiques, comme tu l'as dit, moi non plus, je vais plus en boutique depuis un bon moment, donc ça, on s'en fiche un peu. Bon, même si ce sera triste, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, mais c'est normal. Donc à ce niveau-là, Microsoft aurait pu effectivement garder la même stratégie et faire payer les jeux moins chers, comme on l'a dit. Mais là, de toute façon, au niveau des boutiques, je suis assez d'accord avec Cliff Blazinski. Et après, pour ce qu'il a dit au niveau du digital, c'est clair qu'on va de toute façon y passer au bout d'un moment. Et donc, le physique va être amené à disparaître.
Bon, bah justement, on va parler un peu de ce changement politique. Selon vous, est-ce que c'est vraiment la conséquence d'une erreur de communication? Ou est-ce que finalement c'est pas le fait de Sony, parce que On a beaucoup crié à la victoire des joueurs, etc. Mais je veux dire, finalement, tout ce qui s'est passé là, rien de ça n'aurait été possible sans Sony qui a agi en premier lieu, qui a dit, nous, on ne fera pas ça. Mordren.
Moi, je pense que c'est un peu des deux, en fait. Il y a vraiment le gros coup de poing, en fait, c'était Sony qui dit bon, bah nous, on fait tout ce que la Xbox One ne fait plus. Ça, c'est à mon avis 75% de la décision de Microsoft, parce que bon, c'est très difficile d'être en concurrence avec une console normale quand on a une console qui est problématique, quoi. Et donc je pense que voilà, il y a déjà ça, et c'est pour ça que la décision arrive aussi vite après l'E3. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est que bon, là, évidemment les joueurs ont beaucoup 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 grogné, et ce depuis le 21 mai. Et à mon sens, Microsoft était pas prêt le 21 mai à parler de ce genre de choses, mais ils étaient toujours pas prêts à parler de ce genre de choses à l'E3. Et à mon sens, ils ont utilisé vraiment l'E3 comme un espèce de test grandeur nature, un test de communication grandeur nature, et à dire en fait, on garde ça, et on va voir ce que le grand public qui regarde en fait l'E3 de loin va nous dire. Et là, ils se sont pris une vraie douche froide avec tous ces problèmes de mèmes sur Internet, tous ces gens qui sur Facebook peuvent dire oui, ben écoutez, moi ce sera PS4 et tout. Je pense qu'il y a tout ça qui fait que Microsoft s'est complètement pris les pieds dans le tapis, parce que voilà, ils se sont dit bon, ben on est bien sur le marché américain avec la Xbox 360. On va essayer de poser les balles sur la table et de dire voilà, nous c'est comme ça et pas autrement. Le problème, c'est que évidemment, quand on a un concurrent qui fait exactement l'opposé de ce qu'on fait, c'est compliqué de créer une tendance. Alors s'ils avaient fait ça avec la forme, c'est-à-dire en caressant les gens dans le sens du poil, en montrant que oui, ce sera bien, même s'il y a un DRM. Parce que finalement, c'est super, la conférence, elle a montré que des jeux, que des jeux, que des jeux. Mais le problème, c'est que nous, on avait toujours dans la tête, mais oui, mais c'est une console, ces jeux, ils vont être très bien peut-être, mais il y aura toujours un DRM, il y aura toujours Kinect, il y aura toujours le contrôle d'occasion. Et dans la tête des joueurs, c'est quand même compliqué. T'as l'impression d'être bipolaire, en fait, d'être un petit peu excité par les jeux, mais douche froide parce qu'il y a toutes ces fonctionnalités un peu merdiques. Et du coup, voilà, c'était difficile de vraiment être enthousiaste par rapport à ça. Et je trouve qu'ils ont raté leur E3 juste à cause de ça, parce que voilà, si t'enlèves tous ces problèmes-là, la Xbox One, elle est très attractive, en fait.
Donc, si je dois résumer, pour toi, ce n'est pas tant une erreur de communication qu'une erreur stratégique, en fait, parce que
Ouais.
clairement, c'était voulu, quoi. C'était pas genre, oh merde, oui, on a dit que vous étiez obligé de vous connecter toutes les 24 heures,
Ouais.
et que si vous étiez pas content, on va aller prendre une Xbox.
Ouais.
Enfin,
Non,
voilà,
mais
quoi.
c'est complètement voulu, et c'est très con d'ailleurs, parce que voilà, Microsoft, c'est quand même pas les derniers des cons, et je pense que voilà, il y a eu énormément de réunions par rapport à cette communication-là de l'E3 et de la révélation de la Xbox One, et pour le coup, ils étaient vraiment pas dans le sens du vent là. Ils ont
Ils ont essayé de passer en force, quoi.
ouais, non, mais là c'est complètement con ce qu'ils ont fait.
Mikael.
Alors déjà, Microsoft, c'est pas les derniers des cons. Ils ont fait Windows Vista et Windows 8. Non, mis à part le troll. En fait, je pense déjà, s'ils ont changé de décision, c'est à cause de la grogne des joueurs. Sony n'a été qu'un vecteur. C'est-à-dire que Sony aurait pas fait la grosse baffe, ça aurait été quelqu'un d'autre et la grogne serait quand même montée. Ils l'ont pas fait parce qu'ils se sont dit, oh non, mon Dieu, les joueurs aiment pas ça, mais nous on fait ça pour les joueurs, faut qu'ils aiment ça. Non, ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils ont vu que ils perdaient plus à instaurer ces DRM qu'ils perdaient avec l'occasion s'ils n'en mettaient pas. C'est juste ça. Après, au niveau de la communication, je pense que ça a joué aussi dans leur obligation de retrait. C'est-à-dire que s'ils avaient eu une communication finement menée, où ils auraient peut-être mieux, parce que là c'était n'importe quoi, il y a eu des fuites de partout, personne savait exactement ce qu'ils voulaient faire, on se demandait même si les porte-parole savaient exactement vers où voulait aller Microsoft, bref, c'était n'importe quoi. Je pense, je suis même intimement persuadé, après peut-être que je me plante, c'est mon avis, que s'ils avaient extrêmement bien communiqué autour de ça, ils auraient pu faire passer ça aux joueurs. Tyran, tu dis souvent que toi, tu es quelqu'un qui achète militant, etc. Tu dis souvent que les joueurs sont les premiers à gueuler, mais que quand faut boycotter, il n'y a plus personne.
Je suis premier à penser que les joueurs sont des cons. Hein, mais
ben voilà, c'est ça. tu le dis, les joueurs gueulent, mais quand faut boycotter, il n'y a plus personne. Ben, je pense que Microsoft, ils auraient eu une bonne communication. Ben ok, les joueurs auraient gueulé, mais déjà, ils auraient gueulé moins, parce que la communication aurait été maîtrisée. Donc forcément, qui dit communication maîtrisée, dit moins de soucis d'image. Et je pense que les jeux auraient réussi à faire passer la pilule. Donc c'est à la fois la grogne des joueurs et aussi ben, l'échec en termes de communication de Microsoft. Or je dis pas que les DRM c'était une erreur de communication. Non, on le sait, ils voulaient le mettre, c'est un fait. Mais ils auraient négocié ça plus finement. Je suis persuadé que ça aurait passé parce que les jeux auraient été l'arbre qui cache la forêt en fait.
Dwayne.
C'est clair, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'ils ont retourné... leur veste et qu'ils ont changé de stratégie, c'est pas la communication en elle-même, mais c'est la façon dont ils l'ont menée. C'est-à-dire quand on a par exemple la petite phrase avec Don Matrick qui dit oui, si vous n'avez pas de connexion internet, prenez une 360. Je veux dire, mais dans quel esprit tu dis ça? Même si il aurait même pu faire du bullshit à ce moment-là quand il parlait à Geoff Kelly et lui dire en fait, on va trouver une solution pour les joueurs. Je sais pas, tu trouves un truc, tu arrondis les angles. Mais là, il paraissait super antipathique et t'avais envie juste de lui donner des baves. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est des petites choses comme ça qui ont fait que les joueurs ont bouillonné et puis sont montés au créneau. Et effectivement... ça, c'est ce qui les a amenés à changer de stratégie. Et tout simplement, c'est vraiment une erreur au niveau de la façon dont ils ont mené leur communication et des quelques détails qui n'ont pas donné, comme pour le prêt des jeux ou au niveau des prix. Bon, ça on a déjà dit qu'ils n'allaient pas le faire.
ATH.
Pour une fois que Sony fait quelque chose de bien, je pense qu'on peut les saluer quand même. Parce que c'est pas tous les jours quoi. Parce que eux aussi je rappelle qu'ils ont essayé de nous la mettre avec la PSP Go qui a fait un four monumental, mais moi je suis pas dupe. Les éditeurs, développeurs, constructeurs, c'est tous des entreprises qui veulent faire du chiffre. Donc ils essaient de nous vendre leurs produits.
C'est pas vrai.
Par tous leurs moyens.
T'enfonces tes portes à pas ouvertes, là, TH. Là.
Ah ouais, non, mais... surtout, il dit ça avec une prétention. Genre, moi, monsieur, non, je ne suis
attends,
pas dupe.
C'est-à-dire que, ils vont, s'ils pouvaient vendre un sac de merde au prix fort et que les gens l'achèteraient, ils s'en foutraient que tu prennes du plaisir sur ton jeu ou bien que, tu vois, ils ont rien à foutre que ton jeu te plaise ou pas. Tant qu'ils arrivent à le vendre. C'est ça, l'objectif final, c'est de vendre le produit, même qu'il soit archi mauvais. Ça, si limite, c'est super secondaire, quoi. C'est.
Donc, je soupçonne de le savoir où tu vas en venir, c'est qu'en gros, Sony a pas fait ça pour nos beaux yeux, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est que Sony, ils sont dit, tu vois, je pense que oui, si on faisait quelque chose de différent de Microsoft et qu'on disait qu'on allait à contre-courant, tu vois, on prendrait déjà la faveur des joueurs en notre position. Mais je pense aussi que tu vois. À une époque, il y a eu une affaire qui m'avait fait froid dans le dos. C'était Bouygues Telecom, SFR et Orange dans la téléphonie, qui s'étaient mis d'accord en secret pour augmenter. Pour...
Enfin, en secret, c'était un secret de polichinelle. Hein.
Non, mais ils s'étaient mis d'accord secrètement, sans le dire au grand public, de garder les prix au même niveau. Ils sont mangés un procès parce que le tribunal de commerce a dit que c'était pas très très légal ce que vous faites, concurrence déloyale, etc. Peut-être que Sony, Microsoft, ils auraient pu se mettre en accord pour nous mettre les DRM dans le cul. Sauf que la Sony, ça se trouve qu'au dernier moment, ils ont retourné leur veste. Moi, je sais pas. Moi, je dis ça d'un air totalement paranoïaque, pessimiste, ce que vous voulez. Mais peut-être qu'ils ont fait ça. Mais la seule chose c'est que Sony n'a rien à fuiter. Donc, pour le moment, tu vois, tu leur accordes le crédit du doute, etc. Mais Microsoft, malheureusement, c'est eux qui se prennent tout dans la gueule parce que ils l'ont dit au grand jour et voilà, c'est ça qui a foutu la merde en fait.
Il y a eu plusieurs retours sur internet qui ont très clairement dit que c'était une solution envisagée par Sony.
Ah oui.
Donc et que ça a été une solution qui a été prise au dernier moment parce qu'ils savaient, ils hésitaient et qu'ils ont vu que ça grognait. Et là par contre où ils étaient intelligents, c'est justement ils ont vu que ça grognait et contrairement à Microsoft, ils ont dit bon, on arrête les conneries, ça va pas passer, on passe à autre chose et on justement comme on sait que Microsoft eux ils vont y aller. Bah, on
voilà,
va en
donc
profiter.
Les mondes des bisounours, c'est...
Moi, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Mikael, c'est que je pense que sans Sony, les gens auraient, ils auraient pu gueuler tout ce que vous voulez, bah, tu fais quoi?
Ah oui, non, mais attends. Quand je dis que Sony a été l'élément déclencheur, je l'ai bien dit, si ça aurait pas été Sony, ça aurait été autre chose, parce que tu oublies quelque chose. Par exemple, parler de la téléphonie, sur la téléphonie, t'as une oligopole qui est claire, nette, précise. Si tu veux téléphoner, si tu veux avoir Internet, t'as pas le choix, faut être chez ces opérateurs.
Non, mais le choix, c'est quoi, là? C'est tu vas sur Wii U?
Tu vas sur Wii U, tu vas sur PC.
Ah ouais, super, putain, vu la bibliothèque, ça va être
mais tu vas sur
le PC.
Tu vas sur PS Vita.
Tu pars du PC au console-là, moi, tu vois, fondamentalement, je suis d'accord avec toi, mais va parler du PC à des consoleux, je pense qu'ils vont te regarder avec des yeux, ils vont dire, mais c'est qui celui-là?
Non, mais je pense qu'il y aurait,
moi, c'est mon avis,
il y aurait une porte de sortie qui aurait été nettement plus ouverte, et attends, forcément, il y aurait eu des opportunistes, il y aurait eu des gens qui auraient pensé comme toi et qui seraient dit, attends, le PC, c'est un petit peu plus compliqué. Oh, tiens, Steambox, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Tenez, c'est comme un PC, c'est comme une console, sauf que vous n'avez pas tous ces ennuis, etc. Il y aurait toujours eu une porte de sortie, j'en suis persuadé. En tout cas, comme je disais, Microsoft aurait pu l'instaurer, mais pas par la force. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de dire. Si les deux se seraient mis d'accord, ça aurait pas passé s'ils auraient fait ça avec la force. Enfin, ça aurait passé, mais ils auraient perdu une part de marché. Ça, j'en suis persuadé.
Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui consomment du Nintendo, ils sont chez Nintendo. Et moi, pourquoi, même si... je veux dire, même s'il y avait eu cette histoire avec Sony et Microsoft, mais jamais j'aurais acheté une console Nintendo parce que les jeux ils m'intéressent pas, quoi. Enfin, je veux dire, les gens qui sont intéressés par les jeux Nintendo, ils sont comme ATH, ils ont déjà acheté la console. Alors certes, il y a la Steambox, effectivement, mais ça, malheureusement, pour le moment, on sait pas où ça en est, cette histoire. Alors il paraît que ça avance, que ça a discuté à l'E3, etc., mais pour le moment, on n'a rien vu. Donc la seule porte de sortie, à la limite, ça aurait été la Steambox. Moi, le PC, j'y crois pas une seconde, parce que certes, il y a des opportunistes comme moi qui voient leur portefeuille et qui voient tout de suite que c'est beaucoup plus rentable, mais à chaque fois, moi, je sais pas, à chaque fois, j'ai discuté avec des consoleux, pour eux, le PC, c'était même pas envisageable, etc. Je pense que s'il y avait des gens qui auraient dû passer au PC, ça serait déjà fait, quoi, parce que c'est tellement déjà plus rentable d'être sur PC que...
Admettons, mais je pense pas qu'ils pourraient se mettre d'accord sur un truc comme les DRM, parce que j'ai envie de dire, le jeu en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que Sony avait bien plus à gagner à se faire passer pour un chevalier blanc, alors que tout le monde le sait, il n'en est rien. Ils ont bien plus à gagner à se faire passer pour des chevaliers blancs qu'à s'aligner avec Microsoft et profiter d'une situation qui est au fond une oligopole. Ils ont quand même bien plus à gagner, donc je les vois mal se mettre d'accord comme ça. Je pense pas que c'est possible.
Non, mais oui, mais si t'as pas le choix, si les deux ils auraient fait ça, t'aurais pas eu le choix.
Mais le truc c'est que pour moi les deux se seraient jamais mis d'accord là-dessus. T'as bien plus à gagner à faire oh moi je suis gentil, je fais pas ça, t'as plus à gagner à passer pour un chevalier blanc qu'à signer cet accord qui te permettrait certes d'avoir beaucoup d'avantages.
Je suis pas d'accord parce que ou le consommateur il est baisé d'un côté ou de l'autre, bah s'il peut pas se retourner, bah c'est fini.
Mais après c'est vrai que Mika a raison que Sony dans l'histoire avait tout intérêt à se
faire passer pour un chevalier blanc. On est d'accord sur ce point-là.
Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que là, même si Microsoft avait mis les formes, ça serait pas passé. Parce que là c'est trop gros. Ça passe quand c'est la petite quenelle comme ça qu'on te met discrètement, bon ça va râler un peu, tu vois, mais là c'est juste trop gros, quoi. Là c'est le truc, on te dit que tu vas te connecter toutes les 24 heures, il y a forcément des gens chez qui ça pose problème, surtout que là on touche à l'occasion en plus, et là l'occasion c'est un problème qui parle à tout le monde. Moi je pense que là, ils ont voulu passer en force, mais le problème c'est que le passage en force, c'est on essaie de te faire passer un rond dans un carré, quoi, si tu veux. C'est ça passe pas. Ils ont essayé d'instaurer un DRM à l'échelle de la console, et même en vantant les avantages, comme quoi oui, tu peux partager tes gens des maths, etc. Franchement, là, je pense que, en tout cas sur console, les gens sont tellement attachés à la propriété de leur CD, contrairement aux PCistes, que je suis persuadé que c'était pas possible. Encore une fois, je suis premier à dire que les joueurs sont cons, mais là, je pense que c'était juste trop gros.
Moi, je suis persuadé qu'une grosse exclue, ça fait sauter toute cette motivation, toute cette bonne volonté. Enfin, les gens, ils vont se dire, oh, non, j'achète pas d'Xbox One, je vais pas acheter Sony, oh, Halo 5, oh, ouais, enfin.
Ouais, sauf que après, quand tu leur rappelles derrière que dans 5 ans, leur console...
Oui, mais dans 5 ans, il y a... Ça, c'est une minorité de personnes.
5% vraiment.
J'ai un doute. J'ai un doute, hein, parce que moi, je vois encore des PlayStation 2 qui tournent, etc. je suis pas persuadé que ce soit aussi généralisé que ça. Hein. Chez les gamers, justement, c'est peut-être les gamers justement qui ont plus de facilité à passer à la génération suivante que le consommateur de base qui justement va user sa console jusqà la moelle, quoi. Enfin,
vraiment. De toute façon, bon, on pourra pas le vérifier, oui.
voilà. Alors, enfin, on va terminer ce podcast par une question. Hein. Les DRM sont-ils acceptables, hein? Et dans quelle mesure? Vous seriez prêt à accepter des DRM et pourquoi? Je vais commencer avec Mikael, tiens, puisque tu es un PCiste, et quelque part tu as accepté une certaine forme de DRM aussi.
Et attends, c'est très intéressant, parce qu'en fait je suis un PCiste, et en plus l'année prochaine je vais aller en résidence étudiante, où soit j'aurai pas de connexion, soit j'aurai une connexion ultra merdique. Donc la question se pose bien. Le DRM, l'accepter ou non? Bah déjà ça pose une question, quelle est la réelle plus-value pour le joueur du DRM? On nous a promis jusqu'à présent des calculs gérés dans le cloud, mais allez, c'est du bullshit, faut le dire clairement. Le seul avantage du DRM, il est pour le moment pour l'éditeur, du fait que ça lui permet d'imiter l'occasion et le prêt. L'occasion, le prêt, le piratage, enfin bref, vous voyez de tout ce que je veux parler. Mais clairement, est-ce qu'il est acceptable? Il offre aucun avantage, ça c'est clair. Mais après, on va être obligé de l'accepter. Ça, je pense que c'est pareil. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire, moi, je suis contre le DRM. Je trouve qu'il n'y a aucun avantage. Il n'y a que des inconvénients. Ben, malgré tout, ben, j'ai été le premier à acheter Diablo 3, par exemple. Pour ne citer que lui. J'étais le premier. Ah oui, non, mais je le dis et je l'assume totalement. Quand je dis que les joueurs sont faibles, je m'inclus dedans. Mais, d'ailleurs, Tyran, tu n'as pas Diablo 3, toi?
Non.
Non, tu l'as pas, c'est vrai, mais Tyran, c'est le contre-exemple parfait, mais.
Non, mais moi, si tu veux, à une époque, peut-être, plus jeune, plus faible aussi, j'aurais cédé à la tentation. Mais avec l'âge, n'est-ce pas, tu commences à te dire que ouais, alors je pourrais pas jouer à Diablo 3, mais j'ai ce jeu-là à faire, j'ai ce jeu-là à faire, j'ai ce jeu-là à faire, j'ai ce jeu-là à faire. En fait, j'ai tellement de jeux à faire que ça sert à rien que j'achète Diablo 3, quoi. J'ai tellement d'autres trucs à faire à côté que voilà, quoi.
C'est vrai. Mais non, mais DRM, clairement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a que des inconvénients, mais j'ai aussi l'impression qu'on gueule beaucoup, mais que malgré tout, ben mais il y en a de plus en plus, hein, aussi. Enfin bon, Ubisoft a beau avoir retiré les siens, je pense que sur certains types de jeux, ça pourra passer. Après, faut faire attention. C'est-à-dire que SimCity et Diablo 3, c'est des jeux, ils ont beau pas être entièrement online, ils ont quelques fonctionnalités online qui ne justifient pas le DRM, qu'on soit clairement d'accord, mais qui font à la limite croire que peut-être une connexion améliore la... l'expérience de jeu, etc., etc. Ubisoft, c'était nettement plus hardcore, hein. Par exemple, va prendre un Assassin's Creed 2, tu m'expliques à quoi sert le online. Mais, je pense que ça passera tôt ou tard, le DRM. C'est pas acceptable, mais, les gens sont faibles. Voilà, c'est triste. Moi, le premier. J'aime pas les DRM, mais j'achète des jeux à DRM.
Dwayne.
Ouais, c'est clair que, bon. On va pas tourner autour du pot, ce n'est pas acceptable, mais ça va arriver. Et qu'est-ce qui pourra faire que ce soit acceptable? Je pense que ce sera uniquement comme sur Steam, enfin comme sur PC, le prix, quoi.
Enfin, donc après, le prix et le service.
Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est une notion qui est compliquée. Par exemple, sur des jeux comme bon, on parlait d'Ubisoft, par exemple sur The Division, je pense qu'ils pourront sur des jeux de ce style comme Division ou Destiny, je pense que ça pourra passer de manière assez fluide, on va dire, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est amené à se démocratiser, et ça serait bien que ça se répercute au niveau comme on l'a dit, du prix et du service.
Alors moi, pour donner mon sentiment là-dessus, alors aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure par rapport au DRM, c'est que si j'ai beaucoup plus de capacité à résister à l'appel des jeux marqués d'un DRM, c'est parce que je les ai expérimentés, les DRM, et expérimentés de manière dure, tu vois, le moment où ils te font bien chier, etc. Et notamment le DRM d'Ubisoft sur From Dust. Parce que à l'époque, on m'avait sorti une histoire comme quoi From Dust n'avait pas de DRM, etc. En fait, si, il y en avait un, c'était celui d'Ubisoft au lancement. Et je peux dire que mon jeu, il marchait pas très bien. Et quand tu subis ça, tu te dis, non, non, plus jamais, je n'accepterai ça. J'ai acheté le jeu, et le mec qui a piraté le jeu a moins de problèmes moi pour jouer au jeu quoi. Déjà ça c'est le premier point. Ensuite le second point. Moi il y a s'il y a effectivement un DRM que j'accepte, c'est Steam, parce que pour moi Steam c'est un DRM hein. Parce que mes jeux le jour où il y a un problème avec Steam, je soupçonne qu'il va y avoir un petit souci, parce que là il nous raconte des histoires comme quoi on pourra télécharger nos jeux etc. Je n'y crois pas.
Quelques précisions. Là tu parles en situation de crise, mais dans une utilisation entre guillemets classique, Steam c'est moyennement un DRM parce que tu peux aussi le passer en mode hors ligne.
Oui, mais non, mais oui, non, mais c'est pas par rapport à ça que je le dis. C'est vraiment par rapport au fait que le jour où Steam s'arrête, moi je sais pas ce qui va se passer avec mes jeux, quoi. Et c'est par rapport à ça que je le dis, hein, parce que un jeu sans DRM, moi je sais où il est sur mon disque dur. Et j'ai l'installeur qui est sur mon disque dur. J'ai plein de copies partout. Et le jour où mon disque dur tombe en panne, bah c'est pas grave, j'ai une copie ailleurs. Alors que Steam, le jour où ça s'arrête, moi, ils ont promis que oui, non mais on mettra les jeux à disposition. Je suis persuadé que ça ne marchera pas. Mais par contre, pourquoi j'accepte ? Parce que ça, c'est très intéressant. Je l'accepte parce que le PC est une plateforme ouverte. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jour où Steam essaye de m'enfiler, bah, je vais sur BitTorrent. Voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que sur PC, comme c'est une plateforme ouverte, les PC, les joueurs PC sont des putains d'emmerdeurs. Eh ben, ils iront sur
BitTorrent. Moi, je suis honnête, monsieur.
Et ils n'auront pas une once de morale, quoi. Pas une once de regret. Le trafic sur BitTorrent explose le jour où Steam essaie d'enfiler les joueurs. Et c'est ça. Sur PC, tu as une assurance vie. Ça s'appelle BitTorrent, ça s'appelle le piratage. Et n'en déplaise à Cliff Bleszinski, qui aujourd'hui, alors ça, pour le coup, j'ai trouvé étonnamment faux cul, pour le coup. Parce que, quand même, je note que Cliff Bleszinski fait l'apologie du PC aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Pour lui, tous les joueurs PC étaient des putains de connards de pirates qui n'achetaient pas leurs jeux. Hein. Donc, on n'a pas oublié, et j'espère pour lui qu'il n'a pas l'intention de sortir des titres d'exclusivité sur PC, parce que je suis pas sûr que les gens aient oublié. Hein, mais parce que quand même, il a été assez méprisant vis-à-vis du public PC. Et Epic, enfin voilà. Enfin, moi, son studio, pendant des années, on a acheté leurs jeux, et du jour au lendemain, ils nous ont fait un doigt d'honneur. Donc, ça ne sera pas oublié, monsieur. Soyez-en assuré. ATH.
Ouais, moi c'était juste pour rebondir sur le fait que comment on pourrait accepter les DRM sur console. C'est le fait que il faudrait que déjà, comme l'a dit tout à l'heure Dwayne, c'est les prix sur console qui soient vraiment très attractifs, quoi. Et autre chose, ce serait que les DRM, ce ne soient pas des DRM qui ils l'ont présenté à Microsoft, une connexion toutes les 24 heures ou toutes les semaines, enfin bref. Un truc comme ça, ça serait pas bon. Moi, je penserais plus à une sorte de clé d'activation. C'est-à-dire que tu mets ton jeu dans la console, Ali, si t'as bien acheté ton jeu, etc., en neuf, juste tu rentres le jeu, ça détecte, et c'est bon, ton code est utilisé. Si t'as une coupure d'internet, etc., tu pourras toujours jouer à ton jeu. Et ça fera pas des checks, des vérifications tout permanentes pour t'emmerder, parce que vraiment, les DRM, c'est des trucs qui m'emmerdent, c'est des trucs qui sont là qui pour faire chier le joueur, qui... Pour moi, c'est que des contraintes. Moi, c'est pour ça que je n'en voudrais pas.
Après, pour terminer là-dessus, je suis moins persuadé que vous quant au fait que les DRM vont se généraliser. Parce que bon, qu'on s'entende bien, chez les gros, c'est certain. Je veux dire, tous les AAA, machin. Sauf que les AAA, aujourd'hui, de plus en plus... ça va devenir une portion congrue de tous les jeux qui y vont sortir. Et chez les indépendants, en tout cas, tous les jeux qui sortent là actuellement, ils sont DRM free. Moi, je pense qu'il va y avoir un marché à deux vitesses. C'est-à-dire que tu auras les gros, Ubisoft, machin, truc, qui vont sortir leurs jeux en DRM, et les petits, qui de toute façon savent très bien que leurs jeux vont se faire pirater, voilà, qui n'ont aucun intérêt à faire chez leurs clients, et qui, eux, voilà, ils vont sortir leurs jeux sur Steam, mais aussi sur des plateformes DRM free comme Good Dog Games, etc. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, j'achète mes jeux, si j'ai le choix, moi j'achète mes jeux sur Good Dog Games, hein, parce que, je veux dire, fondamentalement, sauf si vraiment il y a une fonctionnalité indispensable qui est dispo que sur Steam, mais sinon... moi, j'achète mes jeux de préférence sur Good Old Games, parce que je sais que le jour où Good Old Games s'arrête, bah écoute, Coco, moi j'ai mes copies de sauvegarde de mes jeux en exécutable, c'est sur mon disque dur externe, j'ai une copie en local aussi, puis voilà, quoi, je suis tranquille. Mikawel.
Je suis entièrement d'accord quant au marché à deux vitesses. Mon propos ne concernait vraiment que les AAA, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que le marché indépendant, lui, ne pourra pas forcément instaurer du DRM, ne serait-ce que pour une question d'image, en fait. Parce que le jeu indépendant, ben, les gens qui achètent du jeu indépendant, disons-le clairement, ils pourraient le pirater, mais d'une facilité. Je me mets envie de dire que c'est quasiment aussi simple de télécharger un jeu indépendant que de l'acheter sur Steam. Mais vraiment, si les gens achètent le jeu indépendant, c'est pas pour les mêmes raisons qu'ils achètent un jeu AAA, c'est pas la même vision du marché, que ce soit vraiment en termes d'affect, mais aussi en termes de réalité économique, et même indépendamment du fait que ce soit pas les mêmes budgets. On va juste dire que quand on achète un jeu indépendant, on est vraiment en train de se dire que l'argent, on le donne aux développeurs, alors que quand je vais m'acheter, j'en sais rien, moi, mon Battlefield 4, pour prendre un exemple un peu caricatural, je suis pas en train de me dire « Oh, j'achète Battlefield 4, c'est vraiment cool, j'aime ce travail, je vais encourager le studio. » Ouais. C'est vraiment pas la même idée, donc voilà, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un marché très particulier, qui est à plusieurs vitesses. Mais après, l'indépendant, faut voir comment il va évoluer sur console, parce qu'on le sait notamment avec Microsoft, qui a des politiques qui vont un petit peu à reculons côté indépendant, alors que Sony, ça s'en met l'inverse. Donc faut voir si l'indépendant va s'exporter correctement sur console ou s'il va rester l'objet d'une niche de personnes sur PC. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est deux cas vraiment très très différents.
Ouais, d'ailleurs, je note effectivement que c'est un point sur lequel Microsoft n'a pas du tout changé sa politique, par contre, et ça, je pense qu'ils vont le payer très cher. C'est que ils sont toujours dans leur délire de dire que, en gros, on fusionne Xbox Live Arcade, la section 1D dégage, etc. On fusionne tout ça, et qu'en plus derrière, vous ne pouvez pas vous éditer vous indépendant, ce qui est quand même un comble pour des indépendants.
D'ailleurs, j'ai une petite question là-dessus. Est-ce qu'ils ont donné des raisons sur la suppression de cette partie ?
À aucun moment ils ont justifié. Ils sont en train de le payer là. Par exemple, on a vu là cette semaine, il y a Fez 2 qui est annoncé. Bah, il est sur PlayStation 4.
Ah non, mais c'est assez étrange, hein, parce qu'ils donnent pas leur raison. Alors on peut imaginer peut-être que c'est, on sait qu'ils ont un OS assez particulier, qui est basé à moitié sur des tuiles Windows 8, enfin, c'est un triple OS, etc., etc. J'imagine qu'ils ont fait ça pour faire une interface qui sera bien plus fluide. Après, ça se trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que si on supprime les sections dédiées, ça se trouve il y aura de très bonnes alternatives.
Après, encore une fois, c'est, le problème, c'est pas tant le fait qu'ils aient supprimé la section dédiée, c'est que les développeurs indépendants ne puissent pas s'auto-éditer. Et ça, c'est radical. C'est parce que quand même, t'es en train de dire aux développeurs indépendants qu'ils vont devoir passer par un éditeur qui va leur ponctionner des revenus sur leur jeu pour pouvoir sortir des jeux sur Xbox Live. C'est quand même...
Ouais, mais c'est pareil, sur 360, l'auto-édition, elle avait vite ses limites. Ils s'auto-éditaient pas vraiment sur 360, hein.
Bah, sur la section indépendante.
Sur la section indépendante, c'est pas le Xbox Live Arcade, c'est, comment ça s'appelle?
Oui, c'est Xbox Live Indie Games.
Voilà, en sachant que ce qui est connu sur Xbox, c'est le Xbox Live Arcade. Le Indie Games, c'est quand même moins...
Ce qui a changé entre temps aussi, c'est que Sony a changé sa politique.
Oui, c'est ça surtout, en fait.
Oui, mais Sony a permis l'auto-édition, même Nintendo permet l'auto-édition. Je sais pas si tu te rends compte. Même Nintendo est plus en avance que Microsoft sur le sujet, quoi.
T'appuies là où ça fait mal, c'est vrai. C'est vrai.
Par rapport à Sony, Nintendo, ils étaient largement au-dessus du lot.
C'est clair. Et au niveau image.
Et là, maintenant, c'est eux qui font machine arrière, alors que Sony, ils ont dit quoi? Bon, bah, en fait, Sony, ils l'ont joué super fine parce qu'à chaque fois, ils récupèrent tout ce que font les autres. Ils pompent, mais à une manière, ils utilisent leur puissance marketing, etc. Et c'est ça qui leur donne le plus de force. Parce qu'ils
C'est pas une puissance marketing, c'est plutôt que Microsoft, ben, ils se mouillent, ils essayent des choses. Sony, ils se permettent d'attendre et de regarder en fonction des retours, ils agissent en fonction.
Voilà.
Et ça, c'est très intelligent, parce que finalement, Microsoft s'est fait taper dessus, comme le disait Tyran tout à l'heure, ça se trouve, Sony, enfin, c'est même quasiment sûr, ils avaient autant dans l'idée de faire ça que Microsoft, mais ils attendaient. Ils attendaient, ils se mouillaient pas. Ils se sont dit, ah, tiens, Microsoft se fait taper dessus, bon, ben, ça, on le raye. C'est aussi simple que ça. Sony, c'est pas un géant comme Microsoft, mais ils ont bien compris que une des bonnes solutions de passer pour un good guy, ben, c'est d'attendre, c'est de taper là où ça fait mal, c'est de revoir ses plans à la dernière minute, et notamment sur l'indépendant, parce que là, comme tu le disais, Microsoft, c'est un peu lui qui a apporté l'indépendance sur console. Enfin, on va dire le Summer of Arcade, même si bon, c'est de l'indépendant, mais c'est pas auto-édité, etc. Mais c'était quand même, on se disait, ah ben le jeu indépendant sur 360, c'est quand même incroyable, plein de petits jeux, Braid, Limbo, etc. Même si ça s'est après exporté ailleurs, c'était vraiment attaché à l'image Xbox. Ça faisait partie de la qualité de service Xbox Live. Et ça, globalement, ben, comme tu le dis, Sony est en train de le récupérer doucement mais sûrement.
Mordren.
Oui, par rapport au DRM sur les jeux AAA, le seul truc qui peut changer, en fait, c'est la justification des DRM. Parce qu'en fait, on a vu à l'E3 dernier qu'il y a quelque chose que les éditeurs veulent beaucoup pousser, c'est le multijoueur à l'intérieur du solo. Et ça, fondamentalement, c'est un DRM, puisqu'il faut que vous soyez connecté en ligne pour pouvoir jouer. Destiny, c'est ça. Comment il s'appelle, The Division, c'est ça?
Ah, c'est des MMO.
Non, c'est pas vraiment des MMORPG, c'est des jeux qui sont multi mais intégrés dans le solo. Et ça, pour moi, c'est aussi un DRM. Et là où ça passe mieux, c'est que c'est pensé pour être fondamentalement à l'intérieur de l'expérience. Et ça, en termes de justification, ça passe quand même beaucoup mieux que dire « Oui, bon, bah c'est un jeu solo, bah très bien, on te met un DRM à l'intérieur. » Il y a quand même pas photo en termes de politique. Alors après, libre à vous de pas acheter le jeu parce que, voilà, c'est pas votre genre de jeu, mais c'est tout de même mieux que de dire « Bon, bah vous pouvez pas jouer à SimCity si vous êtes pas connecté à Internet. »
Eh bien voilà, on va s'arrêter pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Au revoir.
Salut à tous.